Et sans tarder, nous entrons dans la deuxième phase de cette conférence de presse, donc la séance des questions et réponses, et nous allons tout de suite retrouver Théophane Kinda à Kinshasa pour lui donner le micro. Théophane, vous avez le micro. Deux questions, s'il vous plaît, à Kinshasa avant de revenir à Goma.
Merci pour le micro. Beaucoup de doigts ici. Il y a une personne au fond. Voilà, donnez-lui le micro, s'il vous plaît.
Patrick Félix Abeli de Hope Channel Télévision à Goma et le journal Le Grand Kivu. Madame Marshall, la fois passée ou la semaine passée, pour être précis, le gouverneur de Kinshasa a lancé la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école. Est-ce qu'au niveau de l'UNICEF, nous pouvons avoir une statistique vraie concernant le nombre d'enfants qui n'ont pas ou qui ne vont pas à l'école?
Alors, le spécialiste de l'UNICEF qui est dans la salle est un spécialiste sur toutes les questions d'eau, assainissement, hygiène, santé, donc pas pour l'école. Comme vous le savez, la rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Et on a prévu de refaire un point avec l'UNICEF un petit peu après la rentrée scolaire sur toutes les questions relatives à la rentrée scolaire. Donc, si vous voulez bien, on pourra vous donner une réponse beaucoup plus documentée une fois qu'il y aura la rentrée scolaire. Donc, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on reviendra vers vous avec des informations précises sur l'évaluation faite par l'UNICEF et ses partenaires quant à la rentrée scolaire. Merci.
Et permettez que je change de côté. Madame, s'il vous plaît, vous avez la parole.
C'est Christiane Ekambo pour le journal Africa News et le journal des Nations.net. Ma question aurait été adressée au représentant spécial qui a fait le tour à l'est du pays. Alors, dans une interview qu'il a passée à l'est, il a dit qu'il était là pour vraiment voir, comprendre la réalité de fait par rapport à toutes les exactions qui se passent à l'est. Je voudrais savoir, vous êtes son représentant ici, qu'est-ce qu'il a compris de ce qui se passe, c'est-à-dire les origines, l'origine, les causes de toutes ces exactions? Est-ce qu'il a une réponse? Et s'il a une réponse, est-ce que nous aurons une nouvelle résolution du Conseil de sécurité qui va donner un peu plus de punch à la MONUSCO pour qu'il puisse vraiment remplir son mandat? Et je voulais aussi faire... Oui,
c'est généralement une question.
Une question, s'il vous plaît, à Kinshasa.
Oui.
Okay, question. Merci, madame, on a compris votre question.
Donnez la chance à d'autres collègues.
Merci, monsieur le
Donc, je prends toutes ces questions à partir de Goma. Effectivement, le représentant spécial s'est rendu à Beni en compagnie du nonce apostolique le 29 août 2016 pour non seulement présenter en son nom et au nom de toute la MONUSCO et du système des Nations Unies nos profondes et sincères condoléances suite au massacre que nous avons enregistré le 13 août 2016 à Rouyn-Goma. Mais aussi, il s'était rendu en compagnie du nonce apostolique pour non seulement exprimer toute leur compassion et leur solidarité à toutes les familles éplorées, mais aussi aux populations de Beni et à l'ensemble du peuple congolais. Effectivement, il a déclaré au cours de cette visite que les choses devraient changer car ce décompte macabre n'était plus acceptable et qu'à partir d'aujourd'hui, d'autres formules devraient être mises en place, mais avec la collaboration de tous, car ce problème ou cette crise dans le territoire de Beni a un caractère multidimensionnel et que par conséquent, l'implication de tous les acteurs devrait être était souhaitable. Et c'est ainsi que dans le cadre de cette visite, il a eu à rencontrer les leaders religieux, la société civile, la jeunesse, et aussi les représentants de toutes les différentes confessions et certaines autorités locales et coutumières de cette région. Et bien entendu, il va sans dire que dans le cadre de cette visite, il a pu évaluer par lui-même la situation et l'ampleur des atrocités qui ont été commises dans cette région et a décidé qu'il fallait changer tous les paradigmes initiaux qui avaient été jusqu'ici mis en œuvre et que de nouvelles stratégies devraient être mises en œuvre pour contrer justement cette tendance à la violence ou cette récurrence de la violence que nous avons observée dans ce territoire qui sont perpétrées par les supposés rebelles de l'ADF. Donc je pense très bien que son plaidoyer sera entendu parce que le mois prochain, Il se rendra bien sûr à New York dans le cadre de ses responsabilités ou de ses attributions pour en discuter avec, bien entendu, les autorités à New York. Mais avant tout ça, n'oubliez pas qu'il est souvent aussi en discussion, en interaction par vidéoconférence avec le siège des Nations Unies à New York, qui sont au courant de tout ce qui se passe au jour le jour ici en République démocratique du Congo. Merci. Donc nous revenons tout de suite ici à Goma pour prendre deux questions. Je préfère une femme d'abord et ensuite un homme. Oui, madame, vous avez le micro.
Je m'appelle Georgette Mongi, je suis de la RTS Goma. Ma préoccupation concerne le MONUSCO qui s'est retiré à Kachibéri. Parce qu'il y a la population en train de se lamenter, il y a une grande tension à Kachibéri, on ne sait pas le pourquoi. La MONUSCO, d'abord, je suis surpris, je pensais qu'elle devait intervenir par rapport au briefing d'aujourd'hui. Mais nous voulons savoir pourquoi la MONUSCO a retiré ses bases à Kachibéri. Ça pour autant signaler la population ou bien informer la population, quoi que ce soit, si on peut dire.
Oui, madame, merci pour votre question. Je vais prendre la première partie de cette question-là et je pense que le lieutenant-colonel Wouli, s'il a aussi une contribution à apporter pour éclairer votre lanterne. Bien entendu, vous savez que la force de la MONUSCO est déployée un peu partout, aussi bien dans la province du Nord Kivu que dans l'ensemble du pays. Effectivement, nous avions implanté une base à Kachibéri, car n'oubliez pas qu'il fallait à un moment dégager le NDC Tcheka de cette taxe-là qui va de Kachibéri à Mpofi, et que nous étions implantés là pour neutraliser ou en tout cas assurer la sécurité des populations civiles. Vous conviendrez avec moi aussi que nous sommes dans une nouvelle posture, une nouvelle dynamique. La force doit assurer sa transformation. En d'autres termes, elle doit être plus agile, elle doit être plus mobile et beaucoup plus apte à être projetée dans des délais très restreints et afin de faire face à la menace contre les populations civiles. Donc c'est dans ce cadre-là que la base de Kachibéri va être fermée très prochainement et que je voudrais tout simplement rassurer les populations de Kachibéri que la fermeture de cette base ne nous éloigne pas ou ne nous détourne pas des préoccupations sécuritaires qui sévissent dans cette région. Mais n'oubliez pas non plus que nous travaillons avec les forces de défense et de sécurité congolaises, notamment les FRDC et la police nationale congolaise. Mais ce retrait nous permettra, bien entendu, dans la mise en œuvre de cette transformation, dans la mise en œuvre de l'accroissement de cette mobilité, que nous permettra, avec les moyens aériens que nous avons, de projeter en temps opportun, de projeter en temps voulu les forces qui devraient intervenir dans cette région-là. Donc, rassurez-vous, ça ne nous éloigne pas des populations, bien au contraire, les populations restent au cœur de notre mandat et nous sommes déterminés et engagés à les protéger. Merci. Une deuxième question ici. Vous avez une deuxième question?
Bonjour, moi c'est Rodriguez Katouva, je suis journaliste indépendant et correspondant des médias canadiens actuellement. La question c'était de savoir, dans la lutte contre les ADF, il y a une partie clé, ce sont les renseignements. Et parmi les premiers informateurs, c'est la population. Pourtant, il y a dans au moins 3 attaques, la population avait prévenu et les FARDC et la MONUSCO quelques heures avant les attaques. Est-ce qu'il y a quelque chose que la MONUSCO, dans une de ses sous-structures, est en train de refaire pour recadrer, pour ramener cette confiance population FARDC, population MONUSCO, pour continuer à donner des renseignements? Parce que même pour la dernière attaque, 3 heures avant, la population aurait déjà prévenu les FARDC. Merci.
Oui, je vous remercie. Je soulignerai toutefois que, avant de répondre à cette question, je vous conseillerais d'être moins péremptoire dans votre déclaration en disant que la MONUSCO aurait été prévenue 3 heures avant. Je suis désolé de vous exprimer le contraire, parce que vous avez parfaitement raison de poser cette question qui est essentielle, à savoir l'acquisition, la collecte, l'exploitation du renseignement. Vous savez, quand le renseignement n'est pas disponible, on est comme aveugle et sourd. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que le représentant spécial accompagné du nonce apostolique s'est rendu à Béni pour justement appeler toutes les populations, toutes les composantes, tous les acteurs à s'impliquer de manière déterminée dans la résolution de cette crise. Car, vous savez, nous avons toujours appelé les populations civiles à nous appuyer, car cette crise, comme je l'ai dit à l'entame de cette conférence de presse, est multidimensionnelle, et cette crise n'est pas, la solution à cette crise n'est pas que militaire. Nous avons été informés des massacres du 13 août seulement le 14 août, il faut le préciser. Et immédiatement, nous avons déployé une équipe sur place, suivie après d'une délégation de haute autorité de la MONUSCO qui s'est rendue sur place pour exprimer non seulement leurs condoléances, mais aussi exprimer leur solidarité avec les populations. Et nous avons fait suivre avec une équipe d'investigation qui s'est rendue aussi sur place pour recueillir les premières informations. Nous avons besoin des populations civiles, car sans elles, nous ne pouvons absolument rien faire. Je suis heureux que vous ayez posé cette question, et à ce titre d'ailleurs, je vous interpelle, vous journalistes, de pouvoir sensibiliser les populations, aussi bien que la société civile, de pouvoir jouer le rôle de relais qui est le vôtre pour pouvoir appeler les populations à collaborer avec les FRDC. Ce n'est pas seulement la MONUSCO qui lance ce cri d'alarme ou qui sollicite avec autant de détermination le soutien des populations civiles. Vous savez, dans toute guerre, qu'elle soit asymétrique ou pas, le renseignement est essentiel pour pouvoir planifier et conduire des opérations. Merci, je repars tout de suite à Kinshasa pour deux autres questions.
Ouais, toujours beaucoup de doigts. Voilà, donnez au monsieur qui est à côté.
Guy Oloume, RTNC de développement. Ma question s'adresse à l'UNICEF et à Madame Marshall. L'avancée fulgurante de l'épidémie de choléra inquiète. 499 décès depuis avril 2016. Question, madame. L'épidémie de choléra est-elle plus dangereuse qu'Ebola? Expliquez-nous brièvement les symptômes de cette épidémie.
Je vais passer la parole à Franck Labeille de l'UNICEF qui va pouvoir répondre à votre question. Donc Franck Labeille qui est chef de section WASH à l'UNICEF, donc hygiène, eau et assainissement.
Ok. Donc, l'origine de la maladie, elle se fait aujourd'hui dans des villages et vient également de la RCA, comme vous l'avez sur le communiqué qu'on vous propose, entre autres. Et se traduit, et ça c'est pour la population, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on a affaire à des populations aujourd'hui qui ne sont que trop peu sensibilisées, surtout sur la partie ouest, principalement par une déshydratation et des diarrhées aqueuses. Donc c'est à cela qu'on reconnaît les symptômes, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément des cas confirmés. Et l'on doit ensuite soumettre des échantillons au laboratoire pour valider qu'il s'agit bien du choléra. Mais si des personnes qui nous entendent souffrent en tout cas de déshydratation et de diarrhée aqueuse, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.
Merci. La deuxième question. Où est le micro, s'il vous plaît? Où est le micro? Ah, ok, venez ici. Oui, la dame, donnez à la dame, s'il vous plaît.
Merci Théophane, c'est Elvira Pandou pour le compte de la radio-télévision à Longe. Je voulais m'adresser au colonel, juste avoir le point de vue de la MONUSCO, elle qui soutient tant les dialogues nationaux. C'est par rapport à la déclaration du président de l'IDPS, Étienne Tshisekedi, qui selon lui, Eden Kodjo, est venu aggraver la crise que traverse déjà la République démocratique du Congo. Et puis, d'après les rassemblements, ces assises est un complot organisé contre la RDC en vue des liquider le pacte républicain conclu à l'issue des négociations politiques intercongolaises de Sainte-Cité. Merci.
Oui, merci madame pour cette question. Je voudrais, avant de répondre à cette question, vous dire que je ne commenterai pas les déclarations d'un leader politique congolais. Ce que je peux tout simplement vous dire, c'est que le facilitateur, M. Eden Kodjo, est venu en République démocratique du Congo suite à une requête des autorités congolaises, aussi bien aux Nations Unies qu'à l'Union africaine. Et compte tenu justement de la subsidiarité qui est de mise, parce que les problèmes du continent, comme vous le savez, sont d'abord réglés au niveau du continent, donc au niveau de l'Union africaine, qui a eu, avec le soutien du siège des Nations Unies, à désigner un facilitateur en la personne de M. Edem Kodjo, qui est là et qui poursuit son travail, qui n'est pas facile par ailleurs, afin de ramener tous les acteurs congolais autour de la table pour un dialogue, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la situation, jusqu'à encore très peu, était bloquée. Et il faut louer tous les efforts qui ont été faits. Il faut louer aussi les efforts d'accompagnement par le groupe d'appui aux facilitateurs qui sont déployés ici en République démocratique du Congo, mais aussi les efforts de tous les partenaires de la République démocratique du Congo qui essaient de faire au mieux pour éviter une crise majeure comme nous avons eu à le connaître dans le passé, aussi bien en 2006 qu'en 2011. Ceci est un fait. Et la MONUSCO a une position qui est très claire là-dessus. Ça veut dire soutenir, accompagner le facilitateur dans ses efforts de rassembler tout le monde pour aller vers un dialogue national. Car comme vous le savez, seule la voie du dialogue est la voie royale, la voie qui nous permet au moins de discuter, de mettre sur la table toutes les divergences et de voir comment les aplanir en vue d'avoir des solutions concerter des solutions, d'ailleurs, comme je le dis, consensuelles, parce que n'oubliez pas que, d'ailleurs, à l'issue de l'ouverture du comité préparatoire, ce qui a été retenu, c'est que les décisions seront prises par consensus. Maintenant, une tendance, ou en tout cas un procès d'intention fait aux facilitateurs concernant le sabotage du pacte républicain qui a été scellé, je pense que ces déclarations n'engagent que vous. Une chose est sûre, les gens travaillent. Et il est certes vrai que tous les acteurs n'ont pas formulé de manière claire leur intention de participer. Il y en a qui ont dit qu'ils viendront pas, il y en a qui vont venir, il y en a qui sont venus, et donc c'est dans ce cadre-là que les bons offices, aussi bien du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et d'autres partenaires ou acteurs de la vie politique congolaise, ces efforts de bons offices se poursuivent. Se poursuivent parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que seul l'intérêt du peuple congolais doit prévaloir. Seule la paix que nous entrevoyons à l'issue de ce dialogue est importante pour nous et prioritaire. Donc c'est à cela que tout le monde travaille pour que nous puissions aller vers des élections futures calmes, transparentes, crédibles, inclusives. C'est ce que je peux vous dire. Je pense que je reviens ici tout de suite à Goma pour prendre deux autres questions, une ici et une là-bas. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît, faites passer le micro. Quand vous avez fini, ne le conservez pas, s'il vous plaît.
Merci. Nicholas Long de la Voix de l'Amérique. Radio Okapi a annoncé que plus d'une centaine de prisonniers à la prison centrale de Kisangani ont été libérés hier, aussi bien que 42 détenus militaires et que 21 personnes ont également été libérées hier de la prison militaire de Ndolo. Est-ce qu'il y avait parmi ces gens beaucoup de prisonniers d'opinion ou politique? Et comment ces libérations et les autres libérations annoncées récemment répondent à l'appel fait par l'ONU au gouvernement pour un élargissement de l'espace politique?
Oui, merci. Je ne saurais vous dire avec précision dans les détails combien de prisonniers d'opinion étaient dans ce lot de prisonniers qui ont été libérés ou élargis à Kisangani. Ce que je peux par contre vous dire, c'est qu'il faut inscrire toutes ces libérations-là dans le cadre d'une perspective qui a été déjà exprimée par les autorités congolaises, la perspective de pouvoir calmer la situation, la perspective aussi de pouvoir ouvrir d'autres champs pour que les gens puissent aller de manière sereine vers les élections. Ces mesures de clémence s'inscrivent, sont d'ailleurs, d'abord il faut le préciser, sont une prérogative des autorités congolaises, notamment le président de la République, par son ministre de la Justice. Ce que je peux aussi rajouter, c'est qu'il faut se féliciter de toutes ces mesures d'apaisement qui sont prises et qui permettent ainsi de décrisper l'espace politique, de décrisper un peu l'environnement social aussi, et que tout ceci s'inscrit justement dans les mesures d'apaisement qui ont été prises par le ministre de la Justice, qui ne concernent pas seulement Kisangani, mais aussi qui concernent de manière très générale toute la République démocratique du Congo. Et je pense que c'est un effort qui a été fait par le gouvernement congolais. Il faut savoir aussi le reconnaître, il faut savoir aussi encourager ces telles mesures pour que la paix, ou en tout cas que le climat soit complètement décrispé et que nous puissions aller vers un dialogue qui nous entraînera forcément vers des élections. Il faut notamment souligner que ce dialogue qui va s'ouvrir demain est la partie la plus difficile, elle est plus difficile que les réunions du comité préparatoire qui concernait tout simplement de pouvoir recueillir le maximum de consensus autour de points essentiels qui nous permettent d'aller. Donc je pense que vraiment il faut encourager cela, il faut reconnaître ce qui a été fait de bien et c'est cela un peu la position de la MONUSCO et nous encourageons que d'autres mesures beaucoup plus précises ou beaucoup plus larges soient prises pour décrire respecter cette atmosphère. Donc, une deuxième question ici à Goma. Oui, vous avez le micro.
Oui, c'est Norbert Mwindula pour le compte du journal L'Emergence. Maman Sidikou, je vais citer l'un de ses propos qu'il a parlé qu'il n'est plus le temps de faire de longs discours ici à l'est du pays. Je vais savoir concrètement. Qu'allez-vous faire de mieux, vous, la MONUSCO, pour pouvoir diminuer la capacité de nuisance des ADF qui reste bien réelle ici, au Nord Kivu et particulièrement à Beni? Merci.
Merci beaucoup. Effectivement, tels sont les propos de M. Mamadou Sambo Sidikou lors de sa visite à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement à Beni et de manière plus précise à Rwangoma. Vous savez, la mort d'un seul Congolais pour nous est une mort de trop. Et comme vous le savez, aujourd'hui, quoi qu'on dise, ça fait 15 ans qu'on est là, on nous le reproche bien. Mais sachez que ces 15 ans aussi ont affermi les relations entre la MONUSCO et les populations locales. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous formons une famille. Et la mort d'un seul d'entre nous nous affecte au plus profond de nous-mêmes. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que cette situation sécuritaire délétère, ou en tout cas instable, nous préoccupe tous. Et M. Mamadou Sambo Sidikou est allé non seulement présenter ses condoléances, mais réaffirmer notre engagement et notre détermination à travailler en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité congolaises pour mieux sécuriser les populations civiles. En fait, je pense que ces propos ne sont que le reflet d'une indignation face à toutes ces tueries, car n'oubliez pas que le monde entier a condamné ces tueries indiscriminées, cruelles, sans aucune raison contre les innocentes victimes que constituent ces populations locales. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, que M. Mamadou Sambo Sidikou a lancé un appel, un cri du cœur, pour dire que, en d'autres termes, il y en a assez et qu'il faudra que tous les acteurs, que tout le monde s'y mette pour essayer de trouver une solution à cette crise, comme je l'ai dit, qui est multidimensionnelle. Parce qu'il a eu à rencontrer les leaders religieux, la société civile, la jeunesse, les autorités congolaises, et même le personnel de la MONUSCO. Et dans ce cadre-là, vous allez me dire, oui, on en a assez un peu d'entendre les condoléances et tout ça, ceci est tout à fait normal et c'est à ce titre aussi que nous comprenons la colère des populations face à ces tueries-là. Et je peux vous dire que des mesures nouvelles ont été prises au sein de la force en étroite collaboration avec les FRDC pour que nous ayons un peu plus de mobilité, un peu plus de proximité par rapport aux populations civiles afin de mieux les sécuriser. Donc, je veux dire tout simplement que c'est de manière solidaire que nous vaincrons ces criminels. Merci. Je repars tout de suite à Kinshasa pour prendre deux questions. On va rendre l'antenne à Radio Okapi, mais on va poursuivre ces échanges pour 5 minutes. Kinshasa, vous avez le micro pour 2 questions, s'il vous plaît, okay. Brève, précise
deux questions, et concise. Le monsieur qui insiste depuis. Madame, je vous ai donné la deuxième question.
Merci beaucoup. Je suis M. Alain Botoko. Je suis reporter indépendant. Ma question s'adresse à tout le monde, en fait, à tous ceux qui interviennent de la communauté internationale. L'impression qu'un bon nombre de Congolais ont dans leur tête, c'est que la communauté internationale est complice dans la situation de misère qui ne dit pas son nom, qu'elle est en train de traverser. Et je suis, vous savez comme moi que C'est depuis 1960 que
Soyez concret et allez droit au but, posez votre question.
Ici et concis, s'il
vous plaît. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Alors, je vais être bref. Le reproche de celui-ci, c'est que vous assistez à tout le malheur du Congo depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui, c'est le dialogue que la communauté internationale a proposé aux Congolais qui devait s'ouvrir avec l'aval du Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, demain, c'est un autre dialogue qui s'ouvre, qui est Mande in Kinshasa. Quel est votre apport? Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ces inquiétudes des Congolais? Donc, c'est un peu ça, cette petite préoccupation que j'en veux.
Merci. Merci pour votre question.
Oui, merci. Je vais répondre tout de suite parce que j'ai l'impression qu'il y a un amalgame, une confusion terrible dans vos propos. Il faut rappeler que le dialogue n'est pas l'histoire des Nations Unies ou de la communauté internationale. Ce dialogue a été appelé par les autorités congolaises en place. Et je pense que il ne serait pas juste de pouvoir transférer la responsabilité de tous les problèmes qui existent au Congo à la seule communauté internationale. D'ailleurs, il faut préciser que la MONUSCO n'est pas la communauté internationale. Et je pense bien que la République démocratique du Congo fait partie des Nations Unies, est membre à part entière, prend part aux débats et aux décisions du Conseil aux décisions des Nations Unies qui sont mises en œuvre ici sur le terrain par la MONUSCO. Donc, je ne pense pas, je pense que c'est un procès d'intention qui n'est pas tellement juste dans la mesure où, d'abord, c'est le gouvernement congolais qui a initié ce dialogue-là. Et les Nations Unies, l'Union africaine aussi, à laquelle appartient la République démocratique du Congo, se sont tout de suite empressés de venir au secours d'un des membres de la famille, qui est la République démocratique du Congo, sur la requête d'ailleurs des autorités de ce pays, pour pouvoir aider, faciliter, promouvoir justement ce dialogue-là qui a été demandé par vos autorités afin que nous ne puissions pas tomber dans les travers de 2006 et de 2011 où, si vous rappelez bien, la violence a prévalu à la place du dialogue. Et c'est ce que nous voulons éviter et c'est à cela que nous nous engageons et nous allons poursuivre nos efforts dans ce sens-là. Merci. Et donc, une deuxième question très rapide à Kinshasa.
Rapidement, s'il vous plaît. RTNT2 Développement, Laetitia Massé-là. Tout à l'heure, vous avez parlé, la capitale de Kinshasa pourrait être sévèrement frappée par la maladie. Quelle stratégie avez-vous prise pour arrêter ces fléaux qui tuent et qui continuent à tuer? Vous avez parlé, bientôt, c'est la rentrée scolaire. Mais moi, je pense que vous devez, si l'UNICEF peut collaborer avec le gouvernement congolais pour une bonne promotion d'un bon assainissement.
Merci pour cette question là-bas à Kinshasa. Je vois que vous êtes très futée, madame. Pour une question, vous en avez posé deux. Mais allez-y.
Bonjour. Donc, en termes de stratégie, à l'heure actuelle, pardon, on est en train de finaliser une stratégie commune qui inclut l'OMS, qui inclut le gouvernement congolais, qui reste de toute façon, en général, en fer de lance sur ce type de réponse. Donc toutes les divisions provinciales de la santé, que ce soit sur Kinshasa et dans les zones affectées aujourd'hui, sont complètement impliquées et font partie des réponses. Les questions qui se font aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour empêcher plutôt que l'épidémie n'arrive sur Kinshasa? Donc ce qu'on appelle une réponse de bouclier. Donc on commence à travailler sur toutes les zones aujourd'hui qui sont infectées par la maladie. Maintenant, clairement, on va avoir un problème. On a un problème de financement, on le dit. Il nous faut à peu près 12 millions de dollars pour être sûr de pouvoir répondre, ce qui ne veut pas dire que la maladie n'impactera pas. Et voilà, les différents acteurs aujourd'hui sont en train de se mobiliser pour préparer une réponse. On peut parler, entre autres, pas exclusivement sur Kinshasa, mais voilà, sur des programmes d'assainissement que vous mentionnez, sur la sensibilisation à grande échelle des populations à risque et éventuellement, peut-être sur certaines zones de vaccination également.
Merci. Donc, retour ici tout de suite à Goma pour prendre deux questions, une à gauche au fond et une autre au fond. Oui, rapidement.
Voilà, je réponds au nom de Blaise Pascal pour le compte de l'Essentiel Groupe. Ma question, je voudrais revenir sur la question qu'a posée mon confrère parce que je pense que pour nous, elle est quand même très importante.
Posez votre question.
Oui, vous parlez sans cesse de la collaboration qui doit y avoir entre les acteurs impliqués dans les massacres qui prévoient à Béni. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui, à ce jour, nous donner vos appréciations par rapport à cette collaboration avec la population, c'est-à-dire la société civile? À quel niveau elle est aujourd'hui? Si aussi, justement dans la même longueur d'onde, si cette collaboration elle est ce qu'elle est aujourd'hui, peut-être qu'à ce jour, il y a des choses que la MONUSCO n'a pas encore présentées officiellement au niveau de la population. Qu'est-ce que vous faites pour que finalement cette collaboration soit effective, pour qu'enfin finalement vos voeux là le plus ardent de pouvoir appeler la synergie puisse être effective?
Merci, on a compris. Vous avez parfaitement raison de poser cette question-là. De manière pratique, qu'est-ce qu'on fait pour renforcer cette collaboration? Je l'ai dit et je le répète, cette collaboration est essentielle. Elle est même vitale. Et je vous parle... Aujourd'hui, comment on l'apprécie? Nous pensons tout simplement que c'est un processus qui est continu. C'est un processus qui doit se renforcer de jour en jour. C'est un processus aussi qui doit impliquer tous les acteurs, dont vous notamment, parce que je pense que si vous êtes journaliste, vous pouvez aussi travailler et aider à renforcer justement ou à rapprocher les populations. Il n'y a pas que la MONUSCO qui réitère ces appels-là, les FRDC le font, la police nationale congolaise le fait. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit que la visite du nonce apostolique en compagnie du représentant spécial est aussi un fait marquant dans la dynamique à enclencher dans ce processus-là, parce que nous nous disons qu'il faut toujours continuer à interpeller les populations, à inviter les populations, à inviter tous les acteurs. Parce qu'il ne s'agit pas simplement aussi de s'interroger sans aller dans l'action. Et vous avez vu que les plus hautes autorités, ces excellences qui se sont rendues à Béni et à Rwangoma, s'inscrivent justement dans cette dynamique de renforcer et de poursuivre cette collaboration avec tout le monde. Et d'ailleurs, je vous ai expliqué un peu la palette de personnalités qui ont été reçues ou qui ont échangé avec le représentant spécial et le nonce apostolique. L'Église catholique s'implique aussi dans cette démarche, ainsi que les autres composantes religieuses. Et aujourd'hui, au niveau de la MONUSCO, nous avons pris la plénitude de l'ampleur de ce qui doit être fait. Et au niveau du département de la communication, beaucoup d'actions sont en train d'être menées par des activités outreach, mais aussi par certaines autorités congolaises qui s'impliquent davantage. Vous avez vu le balai d'autorités congolaises qui s'est rendu à Béni cet an dernier, aussi bien de la part des autorités congolaises que de la part des autorités de la MONUSCO. Nous nous engageons et nous poursuivons justement cette dynamique pour que tout le monde puisse nous aider, parce que la sécurité, encore une fois, c'est l'affaire de tous. Une deuxième question ici.
Parlez un peu plus fort. Oui, journaliste de Radio Sauti Njili, vous venez de répéter à trois reprises que sur les massacres de Béni, la crise est multidimensionnelle. Que veut dire pour vous, la MONUSCO, l'expression crise multidimensionnelle? Est-ce que cela veut dire que la solution ou l'issue à cette crise dépend d'une conjugaison d'efforts à différents niveaux, ou bien est-ce que cela veut dire que la répétition des massacres de Béni bénéficie d'une complicité à différents niveaux? Qu'est-ce que cela veut dire?
Ça, c'est vous qui le dites. Ça n'engage que vous. Je vais être très clair. Quand je dis que cette crise est multidimensionnelle, je veux dire tout simplement que la solution ne se résume pas aux actions militaires ou aux opérations militaires qui doivent être menées contre ce groupe rebelle ougandais qui est l'ADF, qui, comme vous le savez, opère dans la région de Rwenzori, dans le territoire de Béni, depuis une vingtaine d'années, suite justement à la pression qui a été mise par les autorités ougandaises sur elle. Bon. Quand je dis qu'elle est multidimensionnelle, n'oublions pas non plus que à l'examen du procès qui est actuellement en cours à Béni, que je ne commenterai pas pour des raisons que vous savez bien entendu, si vous avez bien remarqué, il n'y a pas que des Ougandais parmi ceux qui ont été arrêtés et qui sont en train d'être traduits. Il y a des Congolais aussi, il y a d'autres individus. Donc, quand je dis qu'elle est multidimensionnelle, ça veut dire qu'elle va au-delà de l'action tout simplement militaire. Il y a d'autres implications. Il y a des implications qui sont liées à des problèmes aussi interethniques, des problèmes fonciers, etc. Donc, je veux dire que c'est une approche holistique qui doit être privilégiée pour pouvoir trouver les solutions qui ne sont pas à notre disposition aujourd'hui. C'est pour ça que nous invitons tout le monde à venir contribuer à la recherche de la paix, parce que nous pensons tout simplement qu'avec vos idées, vos suggestions, mais aussi vos recommandations, nous pouvons faire mieux. Au niveau de la force de la MONUSCO, nous avons pris toute la mesure justement de la menace, et aujourd'hui nous avons changé d'approche, nous avons changé de posture. Nos autres sections de la MONUSCO sont sur le terrain en train de travailler, parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les militaires ou les policiers qui travaillent, tout le monde travaille, aussi bien du côté des FRDC ou des populations congolaises, des autorités locales, des autorités gouvernementales s'investissent dans cette dynamique-là pour essayer de ramener la paix dans cette région qui est meurtrie depuis très longtemps. Vous avez dit vous-même que les effectifs en victimes sont énormes. Oui, ces effectifs sont énormes. C'est pour cela que le représentant spécial s'est indigné, parce que c'est la cruauté avec laquelle ces massacres sont perpétrés. Et puis, je ne sais pas si vous avez été à Rouyn-Goma, il faudra qu'on organise une autre visite à Rouyn-Goma, parce que si on vous dit tout simplement c'est à 6 kilomètres au sud-est de Beni, on pense que c'est à côté. Ce n'est pas à côté. Il nous a fallu plus d'une heure dans un terrain extrêmement difficile pour arriver sur les lieux de ce crime. Et il faut aussi tenir compte de l'endroit ou des endroits où les ADF opèrent. L'ADF a certainement subi un taux d'attrition très élevé du fait des opérations militaires qui ont été initiées par les FRDC, soutenues par la MONUSCO. Les FRDC ont payé un lourd tribut aussi pour conquérir tous les bastions qui étaient jadis occupés par les ADF, et aujourd'hui ils ont encore conquis le camp Garlic, comme je vous le disais à l'entame de cette conférence de presse, qui était un bastion des ADF. Et je vous dis encore une fois que compte tenu justement de tout ceci, vous verrez qu'il n'est pas difficile, il n'est pas facile d'opérer. Mon expérience de militaire me permet tout simplement de savoir qu'on peut tuer 1000 individus là-bas avant qu'on ne sache. Parce que ces tueries sont commises avec des armes blanches. C'est pas des coups de feu qu'on peut entendre à des kilomètres. On arrête des gens qui reviennent des champs, on les tue à la machette. On les attache les mains derrière le dos, et personne ne sait. Et jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se soit échappé, qui lance l'alarme. Donc, il y a des difficultés, il y a des paramètres que tout le monde ne saisit pas. Et c'est pour cela que nous demandons à tout le monde de fédérer nos efforts, de aussi fédérer nos intelligences, de mutualiser nos moyens pour que ensemble, de manière solidaire, de manière déterminée, avec tout l'engagement qui s'y est, pour mettre un terme de manière définitive justement à la menace que représente l'ADF. Merci à tous d'avoir été parmi nous pendant ces 45 ou 60 minutes, et à la semaine prochaine.